Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B commence et au menu aujourd'hui, l'info du jour, le collectif MAEC pour mesures agro-environnementales et climatiques était mobilisé à Rennes ce mercredi en soutien aux paysans. Un reportage pour présenter le projet Terra Australis à la croisée de la recherche et de la musique. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une interview de Ludmila Fago en amont du jeudi des archives et puis recommandation week-end de clôture pour la quincette à Borgard. Bienvenue dans l'arène. Et on commence avec l'info du jour que j'ai sélectionné pour vous. Il s'agit de la mobilisation ce mercredi 4 octobre pour dénoncer un soutien insuffisant aux paysans et paysannes bretons. Un rassemblement qui a eu lieu devant la DRAF, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bretagne. Et ce, sur le temps du midi, à l'appel de la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine, de l'association ADAGE, connue pour défendre le système herbager, et puis Eaux et Rivières de Bretagne, qu'on a reçu il y a encore peu de temps dans cette émission d'info locale, des structures qui ont lancé ensemble un collectif qui s'appelle MAEC, 4 lettres pour mesures agro-environnementales et climatiques, des mesures qui ont été signées le 15 mai dernier par 4400 paysans et paysannes bretons. Ces derniers prennent ainsi certains engagements, des engagements de diagnostic sur leur ferme, de rotation des cultures également, des mesures qui impliquent un accompagnement financier de 150 millions d'euros, mais l'État n'a prévu que 90 millions d'euros. Conséquence, certaines personnes risquent de ne pas percevoir l'aide demandée avec la possibilité d'un fléchage de ces aides vers les jeunes agriculteurs, les bassins versants algues vertes ou les paysans qui appliquent des mesures biodiversité. Les associations environnementalistes que j'ai citées réclament donc le soutien promis par l'État à tous les agriculteurs signataires et ce à la veille d'une réunion d'une commission organisée à ce sujet jeudi 5 octobre, la commission régionale agro-environnementale et climatique. Les autres départements bretons, au-delà de l'Ille-et-Vilaine, étaient également mobilisés ce mercredi. Pour plus d'infos, il y a le site internet ille-et-vilaine.confédérationpaysanne.fr. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, on continue avec un reportage. Jeudi 5 et vendredi 6 octobre à 13 et 18 heures, le musicien rennais Pierre Huig emmènera le public en Terra Australis, ou Terre du Sud. C'est le nom d'un continent hypothétique situé dans l'hémisphère sud et qui ferait l'équilibre géographique avec les terres de l'hémisphère nord. C'est le nom Terra Australis du projet de Pierre mené en collaboration avec la biologiste et chercheuse Ella Daly, une Canadienne. Cette dernière, elle est partie aux îles Kerguelen fin 2022 pour étudier l'impact du changement climatique sur les écosystèmes terrestres. Elle en est revenue de ce voyage avec des captations sonores intégrées grâce au travail de Pierre à une création musicale ambiante, mélodique et texturée. Le projet, il se décline aussi en photographies argentiques exposées jusqu'au 10 novembre dans la mezzanine du bâtiment O sur le campus de l'université Rennes 2. Les explications avec Pierre Huig.
Alors il y a 23 photographies qui étaient à prendre lorsqu'elle était surtout en mission de terrain à Kerguelen, hein, c'est-à-dire lorsqu'elle partait pour effectuer ses recherches, hein, donc pendant plusieurs jours parfois dans les cabanes que vous voyez ici, hein, les cabanes qui sont très importantes aux îles Kerguelen, hein, donc hein, puisque c'est des petits endroits en fait qui sont dans des zones qu'on va dire assez peu accessibles. Et on est vraiment là aussi en immersion dans une nature très, 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 très riche.
Je ne les situe même pas, moi, les îles Kerguelen, pour être honnête.
C'est à 2 semaines de bateau au sud de la Réunion. C'est dans la région subantarctique du globe, donc c'est pas encore l'Antarctique, donc il n'y a pas encore de neige, enfin, où il y a moins, beaucoup moins, du coup. Hein. Et voilà, ils ont des étés, l'été austral, là-bas, hein, qui se déroule pendant nos hivers à nous, hein, ici. Ils peuvent avoir des températures qui vont jusqu'à 14, 15 degrés, hein. Donc on ne voit pas de neige sur les photos, sauf sur le mont Ross ici, qui est le point culminant de Kerguelen, hein, où on voit comme des glaciers. bonjour, je m'appelle Pierre Huyghe, je suis artiste sonore et musicien, je suis basé à Rennes du coup. Je présente le projet Terra Australis, un projet de performance et une exposition photographique donc, hein, basée sur l'idée d'un voyage aux îles Kerguelen, donc au pôle sud, et qu'on fait en collaboration avec, avec Ella Daly, donc, qui est chercheuse et doctorante à l'université de Rennes. Alors en fait, bah, avec Ella, on s'est rencontrés de manière assez naturelle hein, quand elle est arrivée à Rennes, hein, dans la vie tous les jours, hein, il n'y avait pas de contexte de recherche ou autre. Et rapidement, en fait, si nos disciplines peuvent se montrer très éloignées, elle qui est biologiste et dans les sciences qu'on va dire dures, et moi dans les arts sonores, en fait, on a un amour très profond tous les deux pour la nature. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans ce sens-là. Et on était tous les deux intéressés par la pratique du field recording, donc hein, d'aller enregistrer les sonorités naturelles. Et comme moi, j'ai plus de connaissances techniques en matière d'enregistrement, de matériel, et ben on s'est un peu complété dans nos pratiques et on s'est rapidement dit ok, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble.
Vous êtes passé par le master création numérique de l'université Rennes 2. Quand est-ce que c'était ? Et puis à quel moment justement vous avez commencé à faire le lien entre nature et votre création musicale ? Est-ce que c'est vraiment là avec ce projet ou c'était déjà le cas avant ?
Alors c'était déjà le cas avant. Moi j'ai eu mon master en 2022 et déjà dès le début du master j'avais pour idée de faire une performance musicale de musique ambiante du coup hein, puisque j'aime beaucoup l'ambiante où on utiliserait du field recording, des sonorités vraiment enregistrées en milieu naturel. Et j'avais déjà fait ce projet qui s'appelait The Fields Above the Skies de performance immersive dans le noir avec un système son spatialisé donc hein. Et où j'utilisais des enregistrements que j'avais été faire dans les Pyrénées. Et c'était l'idée de retranscrire en fait ce paysage sonore des Pyrénées, mais dans un contexte de performance immersive. C'était le projet de base que j'ai pu effectuer et présenter dans le cadre de mon master. On a pu performer à l'université aussi. Hein. Le master nous a accordé beaucoup de liberté hein, pour nos projets. C'était en 2022. Notre rencontre avec Ella s'est faite fin 2021 et très rapidement après notre rencontre, on a commencé à vouloir faire quelque chose ensemble. Et c'est après quand le service culturel de l'Université de Rennes 2 et donc le festival maintenant ont voulu inclure ce projet de performance-là dans leur programmation 2023 qu'on s'est dit d'accord, Ella vient de revenir des îles Kerguelen, elle a rapporté les enregistrements, des photographies, il faudrait qu'on fasse un projet autour de ce voyage. Ouais.
Dans ce champ de la composition musicale, mais qui s'inspire de la nature, il y a des figures un peu de référence en France ou en Europe qui vous ont inspiré ?
Oui, bien sûr. Alors moi, il y a un musicien qui m'inspire beaucoup, qui est Francisco Lopez, qui travaille lui aussi sur le field recording et qui a lui aussi fait des performances immersives, hein. Avec un système sonore spatialisé, beaucoup plus développé que ce que je vais faire avec ma quadriphonie, puisqu'il utilise des dizaines d'enceintes, et qui compose des albums en fait, où il met tout un ensemble d'enregistrements naturels, et qui en fait quelque chose d'une expérience de musique, comme il le dit, très maximale en fait, hein, quelque chose de très, très fort, très intense. Et ensuite, je suis très inspiré par des musiciens électroniques. Hein. Je pense à Robert Henke, alias Monolek, hein, qui est une référence en la matière. Ainsi que Alvan Otto, Karsten Nikolai, qui est connu par le grand public pour avoir fait avec Ryuichi Sakamoto la bande-son de The Revenant, mais qui fait aussi des projets de musique ambiante expérimentale qui sont très riches. Hein, et voilà, ça c'est mes grandes influences, mes grandes inspirations.
Ella Daly, elle est donc partie fin 2022 dans les îles Kerguelen, d'où elle a rapporté des sons. Comment est-ce qu'elle vous a transmis ce qu'elle souhaitait dire de ce voyage, j'imagine donc en photographie, en son, et puis dans son récit, qu'est-ce que vous en retenez ?
Alors déjà, Ella est scientifique en fait, et il y a une vision en fait donc très documentaire de la chose à chaque fois, à la fois des enregistrements comme de ses photographies en fait, une volonté archiviste en fait. Et c'est là où on va se compléter elle et moi, c'est que moi je vais essayer de dégager le potentiel esthétique et artistique de ces choses là. Et donc on a parlé pendant très très longtemps de ce voyage là et surtout de son expérience personnelle, de son expérience intime. En fait, ce qu'elle a essayé de retranscrire dans ces photographies-là et dans les enregistrements et que je m'approprie donc pour les performances, c'est sa vision du voyage, son expérience intime. En fait, comment elle a ressenti, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui se dégagent d'un tel voyage. Il y a l'isolation, il y a aussi le fait d'être loin, le fait de faire des grandes randonnées pour partir très loin. C'est quelque chose qui est physiquement et émotionnellement très fort, en fait, un tel voyage.
Sachant que son sujet de recherche, c'était le changement climatique et, je crois, l'impact sur la biodiversité, non ?
Alors, Ella étudie l'impact des espèces invasives et du changement climatique sur les écosystèmes terrestres de la région subantarctique du globe, dont les Kerguelen, donc. Et à Kerguelen, elle étudie les plantes. Donc les plantes invasives et les plantes locales, les dynamiques qu'elles entretiennent entre elles et aussi comment est-ce que les plantes locales s'adaptent en fait à la présence de plantes invasives du coup.
Comment se passe justement le travail de création musicale à partir de ce matériau qu'Ella Daly a rapporté des îles Kerguelen? Ça se passe en studio?
Alors, ça se fait en studio, c'est-à-dire chez moi, du coup. L'idée, c'est aussi de garder cet aspect documentaire et archiviste en essayant de ne pas détériorer les sons. On se rend compte qu'en fait, à l'instar en fait de ces paysages, comme est-ce qu'elle retranscrit en photo, en fait, de la biodiversité là-bas, c'est quelque chose de très fragile. Et on voit ces enregistrements-là comme quelque chose de très fragile. Donc, on essaie de pas trop y toucher. On les retranscrit en fait dans le système sonore immersif. En fait, on les fait se balader aux quatre coins de la pièce en fait, hein, pour donner cette expérience intime, faire ressentir cette expérience immersive aux spectateurs. Et voilà, après j'utilise aussi d'autres techniques de synthèse sonore comme la granulation par exemple, ou que j'utilise pour créer des textures, des nappes sonores à partir de ces enregistrements-là. Mais voilà, il y a une vraie volonté de ne pas les dénaturer.
Et sur quel temps ça a eu lieu ce travail de composition?
On a commencé à vraiment mettre le projet en forme au mois de mars. Et la partie de composition s'est faite en fait petit à petit en fait sur le tas. Et plus intensément ces dernières semaines à l'approche du festival, hein, bien sûr. Et puis à côté de ça, moi j'étudie et je joue avec les enregistrements, le field recording dans ma pratique personnelle. Donc c'est quelque chose que je fais au quotidien.
Il y aura quatre occasions pour découvrir votre travail lors de performances qui sont proposées les 5 et 6 octobre à 13h et 18h. Des rendez-vous qui affichent complet. Quelle est la vocation de ces performances? Vous les percevez comme un moment méditatif? Comment vous percevez ce moment?
Alors, on voit vraiment comme un moment intime, déjà. Et c'est aussi pour ça qu'on a une jauge assez limitée de 20 personnes par performance. Qui seront à même le sol en fait sur des coussins. En fait, on veut leur donner une certaine liberté de mouvement, hein, pas les mettre sur des chaises sauf celles qui le demandent. Et moi, je vais être très près de ces personnes-là. Et il y a cette idée aussi de jouer dans le noir, dans l'obscurité, pour que chacun et chacune puisse se faire sa propre expérience. En fait, c'est-à-dire que quand on occulte un sens, on l'altère et donc le cerveau va envoyer des données, va stimuler d'autres sens et ça va pouvoir permettre d'imaginer plein de choses en fait et ça dépend vraiment de tout un chacun.
Et pour le musicien que vous êtes, quelle est la partie, on va dire, programmée et la partie qui est vraiment performée en live?
Il y a des parties programmées dans la spatialisation, hein, où c'est ça a plus de sens pour moi de faire certaines choses en studio au préalable, parce que c'est techniquement quelque chose qui est assez relevé et qui demande aussi une certaine connaissance du matériel. Et ça va être sur la partie field recording, mais moi je suis musicien aussi et ça je la joue en live.
Avec quels instruments?
Alors moi je joue des instruments électroniques, hein, je joue des synthétiseurs et avec mon ordinateur aussi et du clavier.
Voilà. Bah justement, alors cette photo là elle est assez intéressante puisque la présence humaine, ça c'est des vestiges en fait des gens qui sont venus essayer de coloniser l'île au début du XXe siècle. Donc, hein, et qui avaient installé une ferme, ils étaient venus avec une famille, avec
avec des moutons, une bergerie. Hein. Et il y avait aussi en fait toutes les usines de traitement d'huile d'éléphant de mer, les stations baleinières. En fait, on a cherché à exploiter les ressources de cet archipel. Hein. Aussi, maintenant, en fait, la présence humaine, elle se manifeste en fait avec ces vestiges-là, en fait, qui sont très anciens et qui sont conservés aujourd'hui et protégés en fait. Comme le patrimoine local en fait, des terres australes et antarctiques françaises. Et par ces photos-là, et là, ce qu'elle a voulu montrer, c'est aussi de montrer qu'il y a une présence qui est très forte, en fait, hein, et qui a vraiment un territoire très, très fragile à protéger, que ce soit d'un point de vue naturel, en fait, avec toutes les photos qu'elle va faire, aussi avec les photos de la faune, aussi, hein, comme avec, du coup, ces vestiges-là.
C'est quoi la suite pour ce projet? Est-ce que, comme les dates affichent complet, il y aura un prolongement, d'autres dates imaginées?
Alors oui, il y a d'autres dates qui sont prévues déjà. Je ne peux pas encore communiquer dessus. Mais,
dans la région?
Oui, dans la région, en Bretagne. Ouais. Et c'est un projet qu'on voit évoluer aussi. Hein. Et là, on va repartir à Kerguelen cet hiver. Elle repart fin novembre pour rentrer début mars, encore une fois. Et on va voir ce qui s'en dégage. Hein. On aimerait bien quand même le pousser, le développer pour les structures aussi scientifiques. Ce serait quelque chose de super intéressant à faire, hein, dans un cadre de recherche aussi. Toujours essayer de concilier nos deux disciplines, ce rapprochement entre art et science qui est super complémentaire en fait.
Et aussi à venir le 16 octobre, un atelier alors plutôt à destination des étudiants de l'université Rennes 2 et puis des personnels aussi de l'université. Là aussi, ça affiche complet, mais on peut peut-être dire un mot sur cette autre forme de valorisation de votre travail, où là, vous allez vraiment présenter votre façon de composer, les outils que vous utilisez, les logiciels.
Oui, alors moi j'étais étudiant à Rennes 2 déjà, j'ai fait mon master ici. C'est quelque chose qui m'a vraiment énormément apporté d'un point de vue de développement artistique mais aussi personnel. Donc quand le service culturel de l'université m'a proposé en fait d'effectuer en fait cet atelier en fait à destination des étudiants et du personnel, c'était assez évident en fait, hein, puisque j'ai la chance de profiter d'un matériel qui est super en fait et que je connais en fait. Et puis je trouve que ça fait écho avec la performance aussi, avec toujours cette question d'intimité en fait aussi, hein. On va être proche du public et on est là pour faire un espace de dialogue en fait, un espace d'échange, hein. On voit pas du tout ça comme quelque chose de prétentieux en fait.
Et ce sera quoi les grands objectifs de cet atelier?
L'idée, c'est de montrer comment est-ce qu'un système de performance de musique électronique en live, donc hein, comment est-ce que c'est fait, comment est-ce que on communique entre les différents instruments, les différents logiciels, hein, et puis c'est aussi ce rapport entre analogique, numérique, hein, et puis l'idée, ça va être aussi de créer, de s'amuser, surtout de jouer. Est-ce que vous voulez que j'introduise peut-être le morceau que vous allez mettre?
Comment on peut le présenter, ce morceau-là?
C'est un morceau qui s'appelle A Matter of Time, qui est sorti sur un EP donc, de 4 morceaux, qui est sorti sur le label Cornarion en 2018. Donc, hein, c'était ma première sortie de musique ambient, puisque moi je suis un musicien plutôt techno, en dehors de ma pratique de la musique ambiante. Et je trouve que c'est un morceau qui retranscrit bien aussi cette thématique du voyage intérieur, en fait. Cet aspect méditatif, en fait, hein, que je vais essayer de retranscrire par les performances de jeudi et vendredi.
Thank you.
A Matter of Time de Pierre Huyghe sur Canal B. Pierre, qu'on vient d'entendre dans un reportage nous parler du projet Terra Australis. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr, site internet où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions salariées mais aussi bénévoles, puisque Canal B est une association qui vit et fonctionne grâce au soutien de plus de 70 bénévoles. Je parle, mais c'est l'heure, je crois, d'une interview. C'est parti. Ludmila Fago, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes étudiante en Master 2 Histoire du droit à l'Université de Nantes et vous animerez un atelier jeudi 5 octobre aux archives de Rennes. Rendez-vous à 18h pour assister à ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre des jeudis des archives, des rendez-vous mensuels qui prennent souvent la forme de conférences et qui visent à valoriser le fonds des archives de la ville de Rennes. Vous, Ludmila, vous êtes étudiante du côté de Nantes et vos recherches, elles portent sur l'administration pénitentiaire et l'histoire du genre. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à croiser ces deux sujets ?
Alors, au départ, c'était une curiosité vis-à-vis des prisons, dans la mesure où c'est un sujet que je ne maîtrisais absolument pas et que j'étais assez intéressée par tout ce qui a trait au champ pénal et au milieu carcéral, mais avec des connaissances vraiment réduites. Et puis, j'ai quand même un attrait pour le féminisme aussi, ce qui fait que j'ai tenté de voir ce qui était possible d'être fait en croisant les deux sujets. Et puis ça m'a mené tout simplement aux prisons pour femmes à partir de ce moment-là.
La maison centrale de Rennes, regard porté sur les prisonnières du 19e siècle, c'est le sujet que vous explorerez jeudi avec le public. Un lieu, cette maison centrale, qui a dû, j'imagine, rapidement capter votre intérêt, puisqu'il faut le dire, ça a longtemps été le seul établissement pénitentiaire exclusivement féminin. C'est pour ça que vous l'avez choisi ?
Oui, effectivement. En fait, il faut savoir que d'un point de vue universitaire, il y a très peu de travaux sur les prisons pour femmes. Il n'y en avait aucun sur la maison centrale de Rennes, ce qui faisait que c'était par définition très intéressant. Et puis oui, c'est une prison qui est exceptionnelle, notamment parce qu'il s'agissait d'une des rares prisons réservées exclusivement aux femmes. Mais même à l'époque où la maison centrale était mixte, parce qu'il y a eu deux maisons centrales et la première était mixte, donc pour les hommes et pour les femmes, les effectifs étaient tellement importants et sortaient de l'ordinaire par rapport aux effectifs que l'on pouvait voir à l'échelle nationale, qu'il fallait s'intéresser à cette maison centrale qui est vraiment exceptionnelle pour le coup.
On peut ajouter qu'il y a quand même la maison d'arrêt de Versailles qui existe, qui est un établissement féminin, mais voilà, c'est une maison d'arrêt, donc ce ne sont pas des peines qui ont été définitivement prononcées. La maison centrale de Rennes, aujourd'hui connue comme le centre pénitentiaire des femmes, on le redit, il est installé rue de Châtillon, à deux pas de l'Arvor, pour les Rennais, histoire de bien visualiser le lieu. Ses portes ont ouvert en 1878 sous Napoléon III. Vous avez eu l'occasion d'y entrer, c'est dans le cadre de vos recherches justement ?
Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de pénétrer dans le bâtiment et d'essayer d'étudier un petit peu sa construction architecturale. Et puis j'y retournerai demain d'ailleurs pour prendre en photo des endroits du bâtiment pour continuer l'étude d'un point de vue patrimonial.
Qu'est-ce qui a attiré votre regard justement d'un point de vue architectural ? Quels souvenirs vous en gardez ?
Il faut savoir que c'est un bâtiment qui sort de l'ordinaire aussi par sa construction, justement, parce que c'est un bâtiment qui est en forme hexagonale, qui ressemble énormément à un couvent et qui est aussi gigantesque. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a été construit pour détenir 1000 personnes, ce qui est vraiment énorme. Donc, c'est un peu le souvenir que j'en garde, un bâtiment qui est majestueux et qui ne correspond pas à ce dont on peut s'attendre d'une prison.
Aujourd'hui, alors vous dites, ce bâtiment il était prévu pour accueillir de 900 à 1000 femmes au moment de sa construction. Aujourd'hui, ce sont 213 détenus qui y sont accueillis. Vous avez choisi de parler, là, dans l'atelier que vous allez animer, des femmes incarcérées au 19e siècle, donc au moment de l'ouverture de ce lieu. Pourquoi avoir choisi cette période de l'ouverture ?
Alors, en réalité, je l'étudie dès 1809, c'est-à-dire également la première maison centrale qui a existé. Et le but, c'était de partir du moment où la prison a réellement existé de manière contemporaine. C'est-à-dire qu'avant le 19e siècle, la prison ne correspond pas à un établissement dans lequel on va enfermer des personnes condamnées ou par l'effet d'une décision de justice, que ce soit effectivement condamnées ou prévenues. Et donc pour moi, il était intéressant de repartir aux racines de la prison en étudiant cette maison centrale du début jusqu'à la fin du 19e siècle.
Alors avant 1878, l'ancienne maison centrale de Rennes était installée dans un ex-séminaire qui devient ensuite un dépôt de mendicité. On y enfermait les mendiants avant donc de devenir une maison centrale dans le faubourg Saint-Hélier, un lieu qui a été mixte jusqu'en 1850 avant de devenir exclusivement réservé aux femmes. En lisant un peu là sur ce à quoi pouvait ressembler cette maison qui s'appelait d'ailleurs maison centrale de force et de correction lorsqu'elle a ouvert, on y découvre des conditions d'enfermement très difficiles avec un silence qui est imposé aux femmes détenues. On y découvre aussi qu'il leur était donné la possibilité de travailler notamment dans un atelier de capsulerie. Vous, ce qui vous a surprise, c'est la place des religieuses dans cette maison centrale.
Tout à fait, oui. La place de la surveillance est forcément fondamentale au sein d'une prison et j'ai trouvé qu'il était intéressant de voir que c'était des religieuses à partir de 1839 et officiellement à partir de 1841 qui s'occupaient de la surveillance mais aussi de donner une instruction religieuse et morale, de donner les soins aux malades, enfin d'effectuer la totalité des missions que pourraient effectuer des gardiens ou surveillants.
Ces sujets-là qu'on aborde, vous en parlerez au public, non pas sous forme de conférence, mais a priori d'atelier. Comment est-ce qu'elle est née, cette proposition ? C'est vous qui êtes allé voir les archives de Rennes. Je sais que vous avez aussi le soutien de la région Bretagne sur cette proposition.
Effectivement, c'est en lien avec le travail que j'effectue avec la région. C'est-à-dire que j'avais obtenu une bourse de recherche pour effectuer un inventaire du patrimoine au sujet des deux maisons centrales de Rennes. Et dans ce cadre-là, il y a un contact qui s'est instauré avec les archives municipales. Et à partir de là, après avoir contacté Madame Tissier, on a décidé de mettre en place cette conférence-atelier et qui par la suite a été validée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
L'atelier, il va se dérouler autour de plusieurs supports et documents que vous êtes donc allé dénicher aux archives de Rennes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce fonds, en tout cas sur cette thématique-là de la maison centrale des femmes ? C'est un fonds qui est riche ? Vous avez trouvé beaucoup de choses ?
Non, c'est des fonds qui sont assez lacunaires. Il faut savoir que les archives, c'est un petit peu un jeu de piste. Et en dehors des registres d'écrou, en réalité, il n'y a pas forcément énormément de choses. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup de correspondances entre les autorités, donc entre le préfet, le ministre de l'Intérieur ou de la Justice en fonction des époques, et du directeur de l'établissement. C'est principalement ces sources-là, ou alors ça peut être des circulaires, bien sûr des normes en fait, circulaires, arrêtés, ce genre de choses qui permettent de comprendre un peu mieux la détention.
Vous avez cité les registres d'écrou, ce sont les documents administratifs d'entrée et de sortie des détenus, on peut l'expliquer comme ça ?
Oui, tout à fait.
Que disent toutes ces cartes, ces registres, ces lettres ? J'ai aussi vu qu'il y avait des catalogues de bibliothèques. Que disent ces documents de la vie et de la place de ces femmes au sein de la prison, mais plus globalement dans la société française du 19e siècle ? On rappelle qu'à l'époque, les femmes n'ont pas encore le droit de vote, dépendent aussi de leur époux.
Au sein de la prison, je dirais que ce sont des femmes qui sont invisibilisées. Elles n'ont pas de place. C'est une époque où on ne prend pas en compte le genre. Donc en réalité, elles subissent un régime carcéral unique qui est masculin, qui fait qu'on ne prend pas en compte, par exemple, la maternité en prison. C'est très tardif au sein des maisons centrales, un peu plus tôt au sein des prisons départementales, mais c'est pas encore ça non plus. Elles ont beau exister, c'est comme si elles n'existaient pas. On ne retrouve aucune trace de leur présence en dehors des registres d'écrou. Il faut vraiment creuser pour trouver des bribes d'informations les concernant. Et au sein de la société française, Je dirais que ce sont aussi des êtres invisibles, des personnes qu'on vient marginaliser et qui sont vues comme fautives à la fois vis-à-vis de la loi, mais aussi vis-à-vis de la morale. C'est-à-dire qu'elles sortent de leur rôle modèle de mère, de femme, d'épouse, qui fait qu'on les voit extrêmement mal et qu'on les juge beaucoup.
Est-ce qu'il y a un document parmi ceux-là que vous mettrez en lumière qui vous a plus interpellé que les autres ?
Je pense effectivement que ce sont les registres d'écrou. Donc, comme vous l'avez dit, c'est effectivement des documents sur lesquels on constate les entrées et les sorties et de manière générale les mouvements. Ça peut être des transferts, ce genre de choses. Ce sont des documents qui nous donnent étrangement beaucoup d'informations sur la vie de ces personnes. On peut retrouver des informations sur l'identité, sur l'état matrimonial, le niveau d'instruction, parfois la religion. Mais on retrouve aussi des données anthropométriques, c'est-à-dire des mesures du corps humain qui permettent d'identifier tout au long de la vie adulte les individus. Et j'ai trouvé que c'était assez surprenant au sein des registres d'écrou, parce qu'on voit que c'est mis en place pour essayer de traquer dans la société ces individus, en cas de récidive notamment.
Comme vous avez eu l'occasion d'entrer entre les murs de la maison centrale de Rennes, on est d'accord pour dire que là, aujourd'hui, en 2023, la vie des femmes incarcérées, elles sont aujourd'hui 200, beaucoup sur des peines qui sont longues. Leur vie n'a clairement rien à voir avec cette vie que vous décrivez là au 19e siècle.
Ah oui, bien sûr, les choses ont énormément évolué. Une différence que l'on peut constater est, par exemple, l'instauration des cellules depuis 1954. Auparavant, ce sont des dortoirs en commun, et même au niveau du travail, de l'organisation des journées, on est très loin de la vie en détention du 19e siècle. Les religieuses ne sont plus présentes non plus. Enfin, il y a beaucoup d'évolutions.
On peut aussi ajouter que des unités de vie familiales ont été mises en place pour permettre aux femmes incarcérées de maintenir un lien avec leurs enfants, leurs conjoints ou conjointes, et puis aussi de nombreuses activités d'insertion et aussi activités culturelles qui sont mises en place entre les murs du centre pénitentiaire. Dernière question, c'est quoi la suite pour vous, Ludmila ? Là, vous êtes en Master 2 Histoire du droit à l'Université de Nantes. Vous avez un projet en tête, peut-être dans la continuité là, des sujets qu'on évoque ?
Tout à fait. Je poursuis en fait en doctorat en histoire du droit à l'Université de Nantes toujours, en travaillant sur l'enfermement des femmes dans les prisons bretonnes de 1789 à 1945 et aussi en collaboration avec l'INSP, donc l'Institut National du Service Public.
Je vous représente, Ludmila Fago, vous êtes étudiante en Master 2 Histoire du droit à l'Université de Nantes et vous animerez un atelier jeudi 5 octobre aux archives de Rennes. Rendez-vous à 18h au 18 avenue Jules Ferry, tout près du métro, pour assister donc à cet atelier en votre compagnie. Pour plus d'infos, il y a le site internet archives.rennes.fr et une billetterie est disponible sur le site withevent.com, même si c'est un rendez-vous qui est gratuit. Merci beaucoup.
Merci à vous. Kids are alive, they wanna play, claim their right, shaping your fate. It's been too long. Okay then. They ain't stopping due to eagerness. Free to struggle on, racing for the rush. We've been here before. We've been here before.
Samba de la Muerte, son morceau Kids Are Live. Vous écoutez Canal B et c'était une nouveauté musicale repérée par notre programmateur musical Yann Barbotin. Un titre à retrouver sur l'album Ornament qui est sorti le 29 septembre chez Yotanka Records. C'est le troisième album de cette formation qui est originaire de Caen et lancé en 2012, ça fait plus de 10 ans. On retrouvera Samba de la Muerte sur la scène du Stéréolux à Nantes à 1h de Rennes le 3 novembre prochain. Vous êtes en train d'écouter l'émission d'information locale de Canal B qui, chaque jour, se termine avec la recommandation du jour. Ces recommandations du jour, ce sont souvent des événements locaux, mais parfois des conseils de choses à lire, à voir ou à écouter. Aujourd'hui, on prend un petit peu d'avance pour annoncer le week-end de clôture de la Quincette. La Quincette, c'est la saison estivale proposée sur la ferme de Quincé dans le quartier Borgard, tous les week-ends depuis le mois d'avril. Durant près de 6 mois, donc, plusieurs collectifs et associations rennaises ont pris en charge la programmation musicale du lieu, lieu fréquenté par plus de 10 500 personnes sur 70 jours d'ouverture. L'autre chiffre, 10, c'est le nombre de restaurants rennais qui ont été fournis en légumes chaque semaine par la ferme de Quincé. Ça, et puis chaque semaine aussi, un marché et une vente à la ferme assurée par 2 maraîchers, épaulés par 1 volontaire en service civique. Il faut les remercier, ces volontaires en service civique, 3 stagiaires et près de 216 bénévoles. Alors, du jeudi 5 au samedi 7 octobre de 18h à 23h, l'équipe de 35 volts, c'est l'association qui porte ce projet, a prévu plein de choses pour clôturer la Quincette. Jeudi soir, quiz de Culture G. Vendredi, concert avec le groupe brestois Baston, les Malouins de FC Déception et le drag show de la Féline. Le samedi sera lui électronique avec à l'affiche Célélé, DJ rennaise, la Strasbourgeoise Béatrice M pour un set dubstep. Et puis Anako, DJ parisienne branchée à reggaeton. Ce sont des soirées organisées à prix libre. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.